France Musique.
Comment renouer avec les concerts maintenant que les contraintes sanitaires se desserrent? C'est une question que se posent toutes les directions de salles et d'opéras en ce moment. Laurent Beigle, directeur de la Philharmonie de Paris, esquisse quelques perspectives dans un entretien qu'il a accordé à Christian Merlin pour Le Figaro. Il remet en question certaines mauvaises pratiques dans le milieu classique. Il envisage notamment d'accueillir des orchestres étrangers sur un temps plus long. On va en parler ce matin avec mon invité Alain Perroux, directeur de l'Opéra National du Rhin, qui est confronté aux mêmes problématiques. Bonjour Alain Perroux.
Bonjour Priscille.
Bonjour, vous êtes en direct avec nous au téléphone, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir accepté de vous exprimer sur cette situation qui change de jour en jour. Le Premier ministre Édouard Philippe a donné la possibilité aux théâtres et aux salles de concert de rouvrir à compter du 2 juin sous certaines conditions d'accueil du public très particulier. Est-ce que cette annonce change la donne pour vous ?
Écoutez, c'est une annonce importante qui, en tout cas, va dans le bon sens et qui, je crois, a été accueillie avec des sentiments très positifs de la part de l'ensemble de la profession du spectacle vivant, qui est quand même très impacté par cette crise. Alors, c'est une étape importante qu'on attendait, mais je dois avouer moi-même que je ne l'attendais pas aussitôt, en fait. Donc, on est un tout petit peu pris de court, mais néanmoins, c'est quelque chose de très positif. Maintenant, tout n'est pas résolu pour autant. Maintenant, comme vous l'avez dit, nous pouvons accueillir du public dans nos salles, sous condition, il va falloir organiser tout ça, on a commencé à y réfléchir il y a quelques temps déjà, on va devoir sans doute revoir les jauges à la baisse, parce qu'il va falloir pratiquer la distanciation sociale dans les salles, laisser des sièges vides, des rangs vides parfois, donc ça a un impact évidemment sur le nombre de personnes que nous pouvons accueillir, et donc aussi sur les recettes de billetterie possibles. Maintenant, la prochaine étape que nous attendons, mais qui, pour l'instant, on n'a pas vraiment de visibilité là-dessus, c'est comment et dans quelles conditions est-ce qu'on pourra permettre aux interprètes d'être sur un plateau, ou sur une scène de concert, ou sur un plateau de théâtre ou d'opéra. Parce que, pour l'instant, on a encore l'instruction de pratiquer la distanciation, y compris avec des chanteurs d'opéra, des danseurs, des comédiens. Évidemment, il est hors de question de leur faire porter un masque. Et puis, d'interdire le contact, ça, c'est quand même difficile dans beaucoup de mises en scène. Donc, ce à quoi nous réfléchissons aujourd'hui, c'est comment, si ces contraintes subsistent, est-ce qu'on peut adapter les spectacles déjà prévus pour qu'ils y répondent, mais moi je ne veux pas imposer ça aux metteurs en scène, et dans ce cas-là, si nous ne pouvons pas l'imposer à certains projets qui sont déjà lancés depuis longtemps, enfin, qui sont préparés, pensés depuis de nombreux mois, est-ce qu'on peut remplacer ces projets-là par d'autres qui seraient, eux, adaptés à cette situation?
Oui, c'est toute la question de à quoi pourrait ressembler dans le monde d'après une mise en scène d'opéra. Les choses pourraient se clarifier à quelle date et est-ce qu'il y a une date butoir pour vous, pour laquelle vous pouvez programmer et assurer la programmation de l'année prochaine?
Les dates butoirs, oui et non. C'est-à-dire que on a compris depuis le début de cette crise qu'elle était évolutive. Vous l'avez dit vous-même, ça change de jour en jour. Et je crois que the readiness is all, hein, comme on dit dans Hamlet, il s'agit d'être prêt. Hein, c'est la chose la plus importante. Donc pour être prêt, on essaie d'anticiper le plus possible. Et en même temps, il faut garder une vraie flexibilité dans cette crise. C'est-à-dire prendre des décisions. C'est même, et c'est là la chose la plus compliquée en réalité, parce que prendre des décisions des mois, voire des années à l'avance, comme c'est l'usage à l'opéra, eh bien là, c'est devenu impossible. Donc, on essaie d'anticiper ce qu'on peut, de prévoir des plans B, mais quand même en attendant le plus longtemps possible avant de les mettre en œuvre, avant de les lancer. Donc, date butoir, je n'en ai pas vraiment. Le plus tôt sera le mieux. Et puis, je crois qu'il ne faut pas rester passif à attendre les recommandations gouvernementales. Il faut déjà essayer d'imaginer quelles pourraient être ces recommandations, comment est-ce qu'on pourra s'y adapter. Puisque de toute façon, après, en fonction des... tout ça est un peu... c'est une question complexe. Je sais que le ministère est en train de travailler sur des guides sectoriels pour donner des indications au monde du théâtre, au monde de la danse, au monde de l'opéra. Mais après, il appartiendra à chaque structure de trouver, enfin, de prendre en compte ces recommandations pour bâtir des protocoles les plus précis possibles, qui soient spécifiques aussi à chaque singularité de chaque structure. Il faudra se mettre d'accord avec les représentants du personnel, avec la médecine du travail, et en fonction de ça, on pourra pourra justement établir des protocoles précis qui nous permettront d'aller de l'avant et de prévoir des choses.
Alain Perroux, quelles activités ont d'ores et déjà pu reprendre à l'Opéra de Strasbourg ? Est-ce qu'il y a du monde dans les murs ?
Oui, absolument. À Strasbourg et d'ailleurs à Mulhouse aussi, et à Colmar, donc les trois villes de l'Opéra National du Rhin, les activités ont repris dès que le déconfinement a été possible, parce que là encore, on s'y était préparé, on avait réfléchi aux mesures à mettre en œuvre pour permettre à toutes les équipes de l'Opéra National du Rhin de revenir au travail. Alors celles qui étaient en télétravail pendant le confinement sont restées en télétravail, conformément aux recommandations gouvernementales. Et puis ceux qui devaient être sur leur lieu de travail pour exercer leur métier, eh bien on a progressivement permis leur retour. Le chœur répète depuis maintenant 3 semaines dans des conditions très strictes, mais le chœur fait un travail utile sur le texte en norvégien de la première production lyrique de la saison prochaine, en petit groupe, dans le respect de la distanciation, pour l'instant avec masque, etc. Le ballet du Rhin est au travail dans ses studios à Mulhouse, ce dont d'ailleurs le New York Times fait état depuis hier. Il y a un reportage avec des photos qui montrent nos danseurs faire des exercices à la barre et puis aussi regagner de la masse musculaire. Donc les choses se mettent en place. Nos équipes techniques aussi ont été de retour progressivement et les choses se passent bien.
Vous avez pris la succession d'Eva Kleinitz qui avait déjà beaucoup avancé sur la programmation de cette saison. Elle s'est éteinte il y a un an, le 30 mai 2019.
Un an exactement. Un jour pour jour, j'ai une pensée toute particulière pour elle aujourd'hui.
En quoi cette programmation lui ressemble rapidement ?
C'est une programmation donc, qui a effectivement été conçue entièrement par Eva et qui s'inscrit donc dans la continuité des 3 saisons précédentes, qui étaient les saisons signées par elle. Et c'est une saison qui lui ressemble parce que d'abord elle est très contrastée, elle est assez audacieuse à certains égards, dans les choix de metteurs en scène, dans l'idée d'avoir une création mondiale qui va être une chose passionnante, enfin un ouvrage d'ores et déjà très prometteur qui s'appelle Aimon et qui est en train de sortir de la plume du compositeur libanais Zad Moultaka sur un livret de Polony. Cet ouvrage sera créé dans le cadre du Festival Ars Mondo qui va perdurer et qui se focalise toujours sur un pays lointain, sur la culture d'un pays lointain, en l'occurrence ce sera le Liban. Il y aura des grands classiques comme Madame Butterfly, Hansel et Gretel de Humperdinck pour les fêtes, et puis des choses plus rares, pour la première fois Mort à Venise de Britten à l'Opéra National du Rhin, en début de saison, une forme assez singulière, imaginée par le metteur en scène catalan Calixto Vieito, d'après le Peer Gynt de Grieg et Ibsen.
Oui, et on est en train d'entendre la soprano norvégienne Marie Eriksmoen, justement, dans du Grieg, et qui doit interpréter notamment la chanson de Solveig dans ce spectacle de Peer Gynt, qu'on espère possible, puisqu'elle sera seule en scène à chanter. Merci beaucoup Alain Perroux, merci pour ces explications ce matin, je vous souhaite une très bonne journée.
Merci, à vous aussi, bonne journée Priscille.
À réécouter sur francemusique.fr.